Je vous remercie.
Merci, mon colonel. Nous allons passer à la deuxième partie de notre conférence de presse. Vous connaissez la règle. Veuillez fermer vos téléphones ou les mettre sur silencieux. Et à toutes les personnes qui vont prendre la parole, veuillez vous présenter, ainsi que l'organe de presse que vous représentez. Bonjour à nos amis de Goma. Nous allons commencer par vous avec trois questions, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Je m'appelle Inga Patern. Je suis de AP. Le colonel vient de dire que à l'Est, le calme est relativement calme. La situation est calme.
Merci beaucoup.
Et pourtant, Kabunyatenge, les Mai Mai et les FDLR s'affrontent. Maintenant, la population pose la question, que peut attendre cette population vis-à-vis de cette nouvelle force de la Brigade des Nations Unies? La deuxième question que j'avais, c'était de savoir si une fois aujourd'hui le M23, comme vous venez de citer beaucoup des abus de M23, venait de se décider, de se dissoudre, quelle sera la force de cette intervention rapide de cette brigade des Nations Unies, aussi longtemps cette force a été créée en rapport avec la force que M23 détenait? Merci.
Je veux prendre les deux questions. Vous avez répondu vous-même. Vous avez dit, le colonel a dit, la situation est relativement calme. Le colonel n'a jamais dit que la situation était calme. Deuxièmement, concernant le M23, bien entendu, une fois que le M23 se serait auto-dissoute, elle n'existerait plus. Cependant, il existerait encore d'autres groupes négatifs et il va falloir mettre fin à l'existence de ces groupes. Nous prenons une deuxième question.
Vas-y. Je m'adresse au lieutenant-colonel Félix Bass. Je me nomme Benoît Kambere Lusumba, je suis du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs. Mon colonel, quel est le niveau de développement, de déploiement de la brigade spéciale, d'autant plus que nous sommes à quelques jours de la fin du mois de juin et que ici à Goma, on ne parle pas encore du contingent malawite. Vous avez des nouvelles de son contingent? Deuxième question, je m'adresse à mademoiselle du pilier développement. Il s'ouvre aujourd'hui à Kinshasa le guichet unique. Vous avez une raison pour laquelle le guichet unique dépend du ministère de la Justice plutôt que du ministère de l'Économie ou des Finances. J'ai dit.
Merci, mon colonel.
Oui, merci pour votre question. Concernant le niveau de déploiement de la brigade d'intervention, il faut d'abord préciser que le déploiement se poursuit sans entrave. Et aujourd'hui, nous avons à peu près 75% de la totalité de nos effectifs qui est déjà déployé dans la province du Nord Kivu, essentiellement constitué d'ailleurs de troupes tanzaniennes et de troupes sud-africaines. Maintenant, concernant le déploiement des troupes malawites du Malawi, ceci ne saurait tarder dans la mesure où déjà une partie des équipements logistiques, du matériel logistique, a déjà été projeté à partir de la République de Côte d'Ivoire où, comme vous le savez, le Malawi avait déployé un contingent. Ce convoi logistique est déjà en route pour Dar es Salaam et plus tard arrivera dans la province du Nord Kivu. Donc voilà à peu près ce que je peux vous dire concernant le niveau de déploiement de nos troupes qui doivent constituer la brigade d'intervention.
Merci. Dorothée.
Oui. Merci pour la question. Je pense que c'est le PNUD qui devrait répondre, mais le PNUD n'est pas dans la salle. Je peux de toute façon vous dire que la journée a commencé ce matin. Donc si vous voulez plus d'informations sur où a lieu le forum, vous pouvez vous rapprocher vous aurez plus d'informations, je pense, dans un communiqué de presse qu'a publié le PNUD et qui sera disponible ensuite. Par contre, pour répondre plus précisément à la question, je pense que le PNUD vous répondra la fois prochaine. On lui fera le message. Merci.
Merci. Nous prenons une troisième question.
Oui, c'est M. Okito Papi du journal École d'Opinion. La première question, je l'adresse au porte-parole de la MONUSCO. Les Nations Unies ont toujours voté des résolutions sur les violences faites aux femmes. Mais quelles sont les finalités de ces résolutions, d'autant plus que jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des troubles ou des violations de femmes et des enfants dans les zones en conflit. La deuxième question, je la pose au chargé humanitaire. L'année scolaire tient bientôt à sa fin. Quel est le bilan que vous pouvez faire en termes d'appui au gouvernement congolais? Merci.
Merci beaucoup. Je ne sais pas comment interpréter votre question. C'est comme si vous disiez, on prend toujours des lois, mais il y a toujours des criminels. Donc, nous sommes à la poursuite d'une société beaucoup plus juste et beaucoup plus apaisée. Ces résolutions, ce sont des textes de loi qui donnent, qui créent les fondations sur lesquelles les luttes peuvent se faire contre ces violences. Aujourd'hui, les pays ont souscrit à cette résolution. On leur a demandé de prendre des mesures au niveau national. Les pays vont prendre les mesures au niveau national pour lutter contre ces crimes. Les résolutions, d'abord, pointent du doigt ces actions, les qualifient comme crimes et demandent qu'on prenne des actions pour y mettre fin. Donc, il faut bien prendre ces résolutions pour, je dirais, créer les bases juridiques pour prendre les mesures contre ces actes-là. Votre deuxième question, je crois que c'était pour Yvon.
Alors, is this open? Okay. Oui, très bonne question. Malheureusement, je n'ai pas la réponse. On va essayer de vous la remettre la semaine prochaine. Par contre, vu que vous êtes à Goma et que il y a un bureau de l'UNICEF à Goma, je pense que vous pourriez déjà avoir les infos concernant l'aide, l'appui que l'UNICEF et les partenaires ont donné dans le domaine pour ce qui concerne la province du Nord Kivu.
Merci. Nous revenons à Kinshasa. Maintenant, nous prenons la première question sur la gauche. Y a-t-il des questions sur la gauche? Oui, derrière.
Oui, merci. C'est Carlos Mupil pour la CSRPN. Monsieur le colonel, est-ce qu'on peut soupçonner l'interdépendance entre l'opérationnalisation de la brigade d'intervention avec les discussions de Kampala entre le gouvernement démocratique congolais et les terroristes M23, même si ces discussions violent la résolution 1373 du Conseil de sécurité pour la lutte contre le terrorisme? Deuxième question, sur la résolution récemment votée sur la lutte contre l'impunité des auteurs de crimes de violences sexuelles. Et nous connaissons que le M23 font partie de ces genres d'accusations. Et les mêmes auteurs qui votent cette résolution, les mêmes auteurs encore appuient les discussions politiques avec le M23 qui résultent toujours à primer les criminels de guerre, de violeurs, de femmes. Merci. Et si ce n'est pas une contradiction, merci.
Bon, je ne sais pas si quelqu'un a compris la question, mais je vous demanderai. Tout le monde est aussi perplexe que nous ici. C'est clair? Pas pour moi. Je vais répondre à la question. Reprécisez votre question, s'il vous plaît. Posez seulement la question, évitez les commentaires. Comme ça, je vais comprendre.
Est-ce qu'il n'y a pas la contradiction lorsqu'il y a une résolution qui lutte contre l'impunité des violeurs de femmes? Et il y a encore des déclarations de ces personnalités, de ces institutions, de ces organisations-là qui appuient les accords politiques avec les M23, alors qu'on sait que les accords des M23, c'est pour les primer les M23 à de hauts postes au Congo. C'est ça.
Ok. Mon colonel.
Merci pour votre question. Je pense que cette préoccupation a trouver réponse plusieurs fois parce qu'il est évident qu'il y a une interdépendance étroite entre les pourparlers de Kampala et le déploiement de la brigade d'intervention parce que n'oublions pas que c'est justement la situation sur le terrain qui a commandé ou en tout cas qui a incité la communauté internationale à prendre des mesures beaucoup plus ardues pour mettre un terme aux activités négatives des groupes armés, notamment le M23. Donc l'approche est holistique dans la mesure où, à côté des pourparlers, des initiatives diplomatiques, à côté des initiatives politiques, il y a aussi cette dynamique militaire, cette dynamique sécuritaire qui doit permettre de contraindre les groupes armés à la reddition ou en tout cas à déposer les armes à toutes fins utiles, à cesser toutes exactions contre les populations civiles. Donc bien sûr que, comme il a été défini d'abord par le chef suprême des armées de la République démocratique du Congo, son Excellence le président Kabila, il a été défini une approche triptyque, notamment la diplomatique, la politique, mais aussi la militaire. C'est dans ce même cadre que les Nations Unies ont jugé bon de mettre sur pied une brigade d'intervention qui va d'abord neutraliser les groupes armés et peut-être pour permettre ou pour parler d'avancer dans le bon sens. Mais voilà en tout cas ce que je peux dire sur l'interdépendance qui pourrait exister entre les pourparlers de Kampala et le déploiement de la brigade d'intervention.
Je pense que la question répond. La réponse, c'est une réponse à vos deux questions. Donc, nous allons prendre une deuxième question sur la gauche.
Je m'appelle Honoré Mbenga. Je suis journaliste de l'agence presse associée APA. Et j'adresse ma question à monsieur le porte-parole, Monobal. Est-ce que. Il n'est-il pas possible ou obligatoire, peut-être moralement, aux Nations Unies d'imposer la trêve au M23 pendant que se déroulent les négociations à Kampala et en attendant aussi l'arrivée des troupes des brigades des Nations Unies. Est-ce que la trêve n'est-elle pas nécessaire? Merci.
Vous demandez que les Nations Unies ou la MONUSCO imposent une trêve au M23. Je pense que ce n'est pas ça la démarche même des Nations Unies. Les Nations Unies ne demandent même pas une trêve. Les Nations Unies demandent simplement que le M23 abandonne sa lutte armée et revienne dans la légalité. Donc c'est même beaucoup plus qu'une trêve, abandonner et de revenir simplement dans la légalité. Puisque le M23 a été mis sur la liste des groupes que la brigade d'intervention doit combattre, au même titre, tous les autres doivent abandonner simplement la lutte armée qui est source d'insécurité et de mauvais traitement de la population civile et de revenir dans la légalité. Avant de passer sur la droite, je veux prendre une question qui nous vient de Facebook sur concernant la MONUSCO. La question nous vient de Ambrose Nzeyimana qui est à Londres. Ambrose demande quand est-ce que la MONUSCO va quitter le Congo et si la MONUSCO ne Et si la MONUSCO ne serait pas simplement une force d'occupation légale? Je commence d'abord par la première partie de la question. Quand est-ce que la MONUSCO va quitter le Congo? Vous savez que la MONUSCO a un mandat qui est... chaque année, ce mandat doit être prorogé après négociation avec le gouvernement et après une étude de la situation pour définir, un, si le mandat doit être prorogé et deux, quel sera le contenu de ce mandat. Donc la présence de la MONUSCO répond à un besoin sur le terrain. La MONUSCO ne serait-elle pas simplement une force d'occupation légale? Je pense que la question n'a même pas sa raison d'être. La République démocratique du Congo fait partie des Nations Unies. Les Nations Unies ont réagi ou sont venues assister un pays membre et nous ne sommes pas une force d'occupation puisque nous ne gérons aucunement ce pays. il y a les institutions légales, les institutions démocratiques de ce pays qui gèrent. Ce pays, ce n'est pas les Nations Unies qui le gèrent. Par conséquent, on ne peut pas dire que la MONUSCO est une force d'occupation. Je passe sur la droite. Première question, RTNC.
Merci. Je venais vous dire ça pour la RTNC. Monsieur mon colonel, cette question, vous pouvez la prendre. Il ne se passe pas d'une semaine sans que les Bakatakatanga dans la province du Katanga n'attaquent à travers une attaque armée. Et la plus récente est celle d'il y a deux jours par la prison de Kassapa. À votre niveau, disons, en tant que c'est vrai que vous avez reconnu qu'il y aura une unité spéciale des Égyptiens qui sera mise à la disposition de cette ville, mais à votre niveau, je voulais dire, est-ce que vous vous concertez ou vous cherchez à comprendre qu'est-ce qui se passe et peut-être conseiller à ce que les deux parties se mettent sur la même table pour comprendre, peut-être pour trouver la solution. Toujours à vous, mon colonel, ce n'est pas au menu de l'actualité ou du jour, mais permettez qu'on vous pose cette question. Monsieur Sultan Makenga, que serait-il devenu? Parce qu'il ne peut pas, ces mouvements ne peuvent pas échapper à votre vigilance. Merci.
Merci. Si vous le permettez, je commencerai par la deuxième question. Qui est devenu Sultani Makenga, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je sais que beaucoup de rumeurs ont circulé ces derniers temps sur une probable blessure de Sultani Makenga suite aux combats qui ont eu lieu à Mutaho. Ensuite, d'autres rumeurs ont circulé déclarant carrément qu'il était mort, mais je peux vous dire que Sultani Makenga est bel et bien en vie. Maintenant, qu'est-ce qu'il devient? Il est dans son fief du Rutshuru, qu'il contrôle jusqu'à Bunagana, et je pense que c'est dans ce cadre-là que beaucoup d'activités ont été observées ces temps-ci par la MONUSCO, parce que n'oubliez pas que nous sommes vigilants sur ce plan-là. Nous observons tous les mouvements du M23 et des rapports sont fournis de manière quotidienne pour effectivement savoir où se trouve le leadership du M23. Maintenant, concernant votre deuxième question qui a trait à ce mouvement Bakatakatanga, qu'est-ce qui se passe? Je suis à peu près sûr que vous connaissez mieux les dynamiques internes à cette revendication des Bakatakatanga liée à une probable indépendance du Katanga. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette dynamique? Je ne saurais y répondre parce que ce serait vraiment m'aventurer sur un terrain que je ne connais pas. Mais une chose est sûre, et c'est cette chose qui nous préoccupe, ce sont les exactions récurrentes menées par les Bakatakatanga dans la zone de Moba ou vers Manono, Mitwaba, Pueto, ce triangle qui est appelé le triangle de la mort, et pour lequel, à plusieurs reprises ici, nous avons humblement reconnu que notre déploiement dans la province du Nord Katanga était assez juste, et c'est pour cela que nous déployons aujourd'hui des troupes spéciales égyptiennes pour aller renforcer les effectifs que nous avons déjà déployés sur le terrain, à savoir le contingent béninois. Donc ça veut dire que la MONUSCO est très concernée par justement toutes ces activités, et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que les Bakatakatanga attaquent une prison à Lubumbashi, c'est la deuxième fois. Eh bien, je pense que la solution doit être trouvée de manière interne, mais nous, ce qui nous concerne, c'est de projeter des troupes, c'est de faire au mieux pour protéger les populations civiles dans une province qui est extrêmement vaste.
Deuxième question, derrière.
Merci, c'est Simon Kinsangala pour le compte du journal Demain le Congo. Une question au colonel. Colonel, est-ce que vous avez le pressentiment que l'offensive peut commencer sur fond d'un déclic? Nous sommes sur terrain militaire, avec tout ce qu'il y a comme patrouille, avec tout ce... quelque chose peut arriver avant le go que vous aurez à lancer, que les sociétés commencent. Avec la brigade d'intervention. Alors, si vous avez ce pressentiment, pourquoi? Si vous n'en avez pas, pourquoi? Merci.
Je pense que je n'ai pas exprimé de pressentiment par rapport à une telle ou autre situation. Évidemment, dans le cadre de nos préparatifs, dans le cadre de nos planifications, nous essayons de prendre au mieux tous les impondérables qui pourraient surgir. Mais n'oubliez pas que déjà, la conduite de ces patrouilles entre dans le cadre global des activités que cette brigade aura à mener, qui consiste non seulement à patrouiller, mais à dominer le terrain et à interdire toute activité aux groupes armés qui pourraient se retrouver dans la zone où la brigade est en train de mener présentement ses activités. Évidemment, on s'attend à tout et on est paré à tout, et je ne pense pas qu'il y aura un jour, une heure, une seconde où il faudra dire nous commençons les opérations. Considérer que les opérations sont déjà en train de se dérouler de manière peut-être moins offensive qu'elles ne le seront dans le futur, mais toujours est-il que nous avons déjà commencé nos activités. Nous sommes sur le terrain et nous protégeons les populations civiles.
Une autre question, Pasteur.
Merci pour la parole, Pasteur Chubangu, pour le scribe. Mon colonel, on s'habitue aux situations volatiles et imprévisibles. Tout ça, c'est bien. Mais on assiste ces derniers temps comme à un transfert des situations dans d'autres provinces ou territoires autres que celles du Nord Kivu. Des groupes armés fuyant ainsi les forces onusiennes d'interposition qui est déjà en activité, le cas de Katakatanga. N'est-ce pas que les ennemis des Congolais ont trouvé des ingrédients pour nuire à ce peuple? Que préconisent les Nations Unies dans la suite? Monsieur le porte-parole, est-ce que nous sommes dans une conférence de presse ou une émission de la radio Okapi? Comment laisserez-vous que les questions des journalistes sont restées pendantes ici? Alors vous pointerez le Twitter ou le Facebook. Merci.
Oui, merci. Je voudrais d'abord recadrer la question parce que... Oui, je voudrais recadrer votre question parce que quand vous parlez d'un mouvement de groupes armés de la province du Nord Kivu vers le Katanga, je pense que là vous faites erreur. Les Bakata Katanga ne viennent pas du Nord Kivu, encore moins du Sud Kivu. Il est vrai, j'aurais compris cette question si elle avait trait à un mouvement ou un déplacement des FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, qui, comme vous le savez, ont eu beaucoup de pression sur eux suite aux opérations qui avaient été lancées dans la province du Sud Kivu, en l'occurrence l'opération Amani Kamilifu, où la pression exercée sur les FDLR leur a obligé à aller vers le sud du Sud Kivu, ça veut dire le nord de la province du Katanga, dans la zone de Bendera. Mais les Katakatanga, le mouvement Katakatanga est spécifique au Katanga. Il a une revendication qui est liée à une probable indépendance du Katanga. Donc ça, c'était pour corriger justement cette question que vous avez posée. Maintenant, si la brigade d'intervention va commencer à mener ses activités, bien sûr qu'elle les mènera en temps opportun.
Merci. Vous savez, l'absence de progrès est souvent due à une résistance à l'innovation et au changement. Nous avons introduit maintenant la vidéoconférence avec Goma. Je pense que c'est une bonne chose. Nous avons Twitter et Facebook, les gens qui nous posent des questions, qui sont des questions intéressantes et que nous voulons partager avec nos auditeurs qui nous suivent sur Radio Okapi. Je pense que c'est une très bonne chose. Nous allons prendre une autre question. Donnez le micro.
Merci Jean-Pierre pour RTGA. Les amis de Goma ne l'ont peut-être pas évoqué. Ce matin, communiqué de la société civile locale arrivée à notre rédaction faisait état d'une très forte présence des troupes de l'APR, l'armée patriotique rwandaise, troupes qui se trouveraient à Rutshuru, précisément dans les camps de Rumagabo et Tchanzu. Je voudrais savoir si la MONUSCO a l'information. Et puis, concernant toujours les M23, on sait qu'il s'illustre de plus en plus par des actes de vandalisme. Pas plus tard qu'il y a deux jours, ils ont tiré à bout portant sur un minibus qui venait de Butembo pour Goma. Alors, dans ce cas, je voudrais en fait savoir quel rôle joue exactement la MONUSCO. Vous jouez à la protection, à la prévention ou au secours? Merci.
Mon colonel.
Pour votre première question, je suis au regret de vous dire que je ne suis pas au courant d'une éventuelle incursion des troupes rwandaises. Ce n'est pas l'APR, c'est les RDF, Rwandan Defense Forces. Le terme a changé. Mais ce que je peux vous dire concernant une éventuelle incursion, c'est vrai qu'il y a quelques jours, ça veut dire ça n'a rien à voir avec ce que vous avez dit, il y a quelques jours, effectivement, il y a eu un quiproquo le long de la frontière entre une patrouille FRDC et une patrouille rwandaise sur le contrôle d'une colline. Les choses se sont bien déroulées parce que les deux parties se sont rencontrées et ont discuté et ont pu trouver une entente concernant la délimitation de la ligne frontalière entre les deux pays. Ça, je suis au courant, mais pour une probable ou un déploiement de troupes rwandaises à Rubangabo, je suis au regret de ne pouvoir vous satisfaire sur cette question-là. Maintenant, vous avez effectivement parlé d'un bus qui a fait l'objet d'une attaque de la part d'éléments du M23 sur la route Beni-Boutembo. Mais vous savez, c'est un secret de polichinelle que de répéter ici que le M23 est une force négative et que c'est justement à partir des actions négatives qu'il a posées jusqu'à présent qu'il a pu être qualifié au niveau des plus hautes instances internationales comme étant une force négative. Le M23 et à la base de toute cette insécurité dans le retour que vous venez de nommer, le M23 est à la base de toutes les exactions qui sont conduites de manière régulière sur les populations civiles dans cette partie-là. La force d'intervention n'est pas une force de secours, elle est là pour protéger les populations civiles. Mais si on est honnête, on sait aussi que la MONUSCO n'a pas la capacité de mettre un casque bleu derrière chaque bus qui se déplace ou alors d'être derrière chaque habitant congolais. Nous le voulons, nous aurions voulu être partout en même temps, mais ceci est difficile. Mais chaque fois que nous avons reçu les informations liées à une tentative d'exaction de la part du M23, la MONUSCO est toujours là, elle est toujours là auprès des populations civiles pour leur apporter le soutien nécessaire.
Merci. Nous repartons à Goma. Nous allons prendre deux questions de Goma.
Oui. Okay. Oui, c'est John Kanyunyu. Je travaille pour la Deutsche Welle. Mes deux petites questions s'adressent au colonel Bass. Au début de cette semaine, Radio Okapi a parlé des affrontements entre les éléments de l'armée congolaise et les ADF Nalu sur la route Kamango. C'est au nord de la ville de Beni. La MONUSCO a-t-elle apporté son appui aux éléments FRDC engagés dans ces combats? Et quelle est la situation qui y prévaut à ce moment? Deuxièmement, vous avez parlé de l'exécution de 26 civils par les éléments du M23 dans le Rutshuru. Une fois cette information confirmée par d'autres sources, ne pensez-vous pas que c'est une infraction de non-assistance à la personne en danger de la part de la brigade d'intervention des Nations Unies qui a plus de la moitié de ses éléments ici à Goma et qui ne sait pas aller empêcher de tels crimes dans le Rutshuru? Merci.
Merci. Donc, je suis Christian Mapenan de la radio.
Oui, mon colonel. Allez-y, mon colonel.
Non, il y a une deuxième question, non? Je crois bien.
Non, allez-y, allez, mon colonel.
D'ailleurs, je commencerai par vous rappeler, monsieur, que la brigade du Nord Kivu n'est pas déployée à Goma, elle est déployée dans toute la province du Nord Kivu. Effectivement, nous avons relaté, nous avons dénoncé ici les opérations de bouclage et de ratissage menées par le M23 dans les zones qui sont sous leur contrôle, et ces opérations de ratissage ont mené à des arrestations arbitraires, à des meurtres dont celui que vous venez de mentionner et même parfois des recrutements forcés. Donc la force de la MONUSCO qui est déployée dans cette zone-là, comme nous le répétons tout le temps, est complètement engagée à remplir sa mission, même dans les territoires tenus par le M23. Et c'est à ce titre, d'ailleurs, que nous apportons notre soutien tous les jours dans des zones où le M23 aurait bien aimé ne pas avoir de présence onusienne pour veiller, surveiller, dénoncer et porter à la connaissance aussi bien des autorités de ce pays que de la communauté internationale des actes négatifs qu'ils ne cessent de poser tous les jours contre les populations civiles. Donc, ces gens-là ont été abattus abattu lors des opérations de bouclage sur justement des accusations gratuites du M23 parce que des investigations n'ont pas été menées pour déterminer avec précision l'implication de ces gens-là, leur collusion probable avec le groupe Nyatora. Parce que si le M23 a subi des pertes importantes ces jours-ci du fait de groupes armés dans les territoires que le M23 contrôle, donc on pourrait remettre en question l'autorité ou en tout cas la souveraineté du M23 dans les zones qu'ils occupent. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Nous continuerons à protéger les populations civiles du mieux que nous pouvons.
Deuxième question de Goma.
Voilà, je disais, je suis Christian Mapenano de la radio communautaire de Taïna. Monsieur le colonel Félix Bass, ici, je voudrais, si vous pouvez donner une information officielle par rapport aux rumeurs qui règnent ici à Goma, selon lesquelles, dès la fin des examens d'État, il y aurait peut-être une éventuelle attaque par la force d'intervention de la MONUSCO.
Je ne saurais confirmer ou en tout cas dénier ces rumeurs, mais vous savez, aujourd'hui, la rumeur est présente, elle est prégnante même, on peut dire, particulièrement dans la zone du Nord Kivu. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que des rumeurs aussi avaient circulé quant à la non-tenue des examens dans le territoire de Rutshuru ou même jusqu'à Nyiragongo, et je peux vous dire que les examens se sont tenus, parce que non seulement la force de la MONUSCO a veillé au grain, mais nous avons même escorté et protégé tous les élèves qui devaient aller prendre part à ces examens. Donc nous sommes présents, nous faisons ce que nous pouvons, mais maintenant, vraiment spéculer sur les rumeurs qui circulent dans et autour de Goma, je pense que je ne suis pas bon à cet exercice-là.
Merci. Nous prenons deux questions sur la gauche. La dame.
C'est Bétrine de Géopolis Hebdo. Ma question s'adresse au porte-parole militaire. J'aimerais savoir quelles sont les dispositions de la MONUSCO face à l'enrôlement forcé des jeunes hommes à Nyiragongo par les M23. Merci.
Merci. Mais vous savez, la MONUSCO, ou en tout cas les Nations Unies de manière très générale, a toujours condamné et s'est toujours érigé contre l'enrôlement aussi bien des jeunes que des enfants par les différents groupes armés qui sont dans le Congo. À notre niveau, au niveau de la MONUSCO, nous avons une section spécialisée justement dans la protection des enfants. Et d'ailleurs, pour vous rappeler, il y a peu de temps, nous avons dénoncé justement le recrutement forcé de 53 enfants qui s'étaient échappés des rangs du M23. Et donc nous continuons à monitorer cette situation et nous continuons aussi à veiller au grain et à agir en cas de besoin. Une fois que d'autres structures qui concourent toutes à protéger les enfants, qui concourent toutes à dénier aux groupes armés la possibilité de recruter des enfants qui doivent entrer dans la composition de leurs troupes, eh bien, tant que nous aurons des informations fiables, nous réagirons à temps opportun.
Nous allons prendre encore une autre dame.
C'est Révérend Judith Carle, APA. Je voulais poser la question au colonel Bass. À quoi servent toutes les opérations que vous amenez et quelle est sa finalité? Parce que vous venez de citer l'opération dénommée Soleil. Merci.
Le but de toutes ces opérations que nous menons et que nous, auxquelles nous accordons d'ailleurs un nom de baptême assez significatif, le but de ces opérations, c'est d'abord, premièrement, de protéger les populations civiles des exactions des groupes armés. C'est aussi de recueillir des informations, d'interagir avec les populations locales et de prendre en compte leurs préoccupations, mais c'est aussi de dominer le terrain et d'interdire à tous ces groupes négatifs toute liberté d'action dans leurs zones de prédilection. Cette opération Soleil, comme vous l'avez dit, effectivement a été lancée par la force de la MONUSCO suite à certaines informations que nous avions dans cette zone de Doruma du fait des groupes armés. Ces informations que nous recevons viennent justement des populations locales. Et c'est en prenant compte de leurs préoccupations que nous avons décidé de lancer cette opération au cours de laquelle d'ailleurs nous avons dominé le terrain et nous avons parcouru à peu près 1000 kilomètres en voiture et plus de 150 kilomètres à pied. Et toutes choses étant bien faites, nous avons remarqué qu'en dominant ce terrain, nous n'avons trouvé aucun indice révélateur de présence ennemie dans cette zone-là. Donc notre but est avant et pour tout protéger les populations civiles. C'est ça le but final des opérations.
Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait le déplacement pour notre conférence d'aujourd'hui. Merci à nos auditeurs qui nous ont suivis sur Internet. Merci à ceux qui nous ont suivis sur les différentes stations de Radio Okapi. Rendez-vous mercredi prochain.
Papa, plus de 50 ans, qui nous a dit, depuis que je suis né, c'est la première fois que je vois un chat d'arachide. C'est-à-dire, il y a quelque part un problème mais qui existe en ce qui concerne l'alimentation et les habitudes alimentaires. Il mange que le tubercule de manioc avec le feuille.
Finalement, quelles ont été les conclusions de cette enquête?
Bon, les conclusions de cette enquête-là est que le taux de mag est important.
C'est quoi le mag?
Mag, c'est malnutrition aiguë globale. C'est-à-dire, le taux limite, c'est pratiquement 20%, mais nous avions trouvé 35,5%.
Et en province orientale, c'est le SOS du programme élargi de vaccination dans l'Ituri. 5 zones de santé du district n'ont pas encore bénéficié de la chaîne de froid achetée par le gouvernement. Selon le médecin responsable du programme élargi de vaccination PEV Ituri, ce système de froid traîne encore à Bounia suite au manque des moyens de déplacement vers les zones de santé concernées. Pour le docteur Lobo, cette situation risque de compromettre le bon déroulement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite et de supplémentation en mébendazole prévue le 11 juillet prochain dans l'ensemble du pays. Le responsable du PEV Ituri, Dr Lobo Rombi, au micro de Martial Kizabiamungu.
Toutes les zones de santé avaient les matériels de chaîne de froid, mais certains sont tombés en panne. Et pour cela, il y a des matériels de chaîne de froid qui sont arrivés, les matériels de chaîne de froid solaire qui sont entreposés au niveau de l'antenne, et pour lesquels nous faisons un plaidoyer pour qu'on puisse les transporter vers les zones de santé bénéficiaires afin de garantir la qualité de la campagne pendant le GNV 2013. Si ces matériels n'arrivent pas à destination, les conséquences, c'est que les